Nous continuons notre série quasi télévisée sur la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, aux chrétiens de la ville de Corinthe dans les années 50 du premier siècle. Et aujourd'hui, l'épisode 3 de la série. On est donc à Corinthe, une ville commerçante, une ville cosmopolite, un brassage de différentes populations et de différentes religions, un syncrétisme extraordinaire à Corinthe. Et là, une église qui tente de commencer, parce que Jésus est mort et ressuscité il y a 25, 30 ans. Donc c'est la première génération de chrétiens, les premières églises qui apparaissent. Et ils vivent des moments, c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, Paul reçoit des nouvelles de l'église de Corinthe. Il est à Éphèse, donc du côté turc là, du côté est. Et les nouvelles sont mitigées par rapport à Corinthe. Donc il répond dans cette première lettre par rapport aux nouvelles qu'il a reçues. Et il commence par les salutations. Et on avait relevé il y a quelque temps déjà dans ces salutations un verbe qui revient trois fois, le verbe « appeler ». Notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la foi chrétienne, est un Dieu qui appelle. Alors il a appelé Paul à être apôtre, à être envoyé apôtre. Et puis, il nous appelle, et c'est dans les salutations aussi, à être saint. Un petit peu comme le saint, là, vous vous souvenez, la série d'il y a quelques années, des années 70. Un appel à la sanctification, à devenir ce que nous sommes déjà. Et puis, un petit peu après, il nous parle, il vient dans le vif du sujet, des divisions à Corinthe, ou les discordes à Corinthe, dans l'église de Corinthe, en grec, les schismata, qui a donné schisme en français. Mais là, ce sont des discordes avec un appel, là encore, un appel impérieux, une recommandation instante, vivez en harmonie les uns avec les autres. Et on s'était dit, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans nos familles, dans nos couples, un appel à l'harmonie. Et puis, vient la suite, épisode 3 que nous allons lire ensemble. En effet, la prédication ou la proclamation de la mort de Christ sur une croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur ou le discoureur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé la folie en folie, la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix. Ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, encore une fois, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et là, je saute quelques versets, et on arrive au verset 30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous sagesse qui vient de Dieu, qui est devenu justice, purification et libération. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est autour de ta parole que nous nous rassemblons ce matin. Autour de toi, Jésus. Et cette révélation de Dieu que nous avons dans les Écritures. Merci pour son actualité, merci pour sa pertinence. Donne-nous un cœur attentif pour recevoir ta parole, de façon peut-être nouvelle. Calme nos craintes, calme nos inquiétudes, donne-nous de nous concentrer sur toi, de nous recentrer sur toi, par l'action puissante de ton Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai donné un titre qui est incomplet et un peu provocateur. Dieu est-il fou ? Trois petits points. Mais c'est ce que Paul dit un petit peu dans ce passage, en particulier au verset 25, où il parle de la folie de Dieu, dans les termes. Dieu est-il fou ? La folie de Dieu, c'est fort. Et en même temps, il veut certainement provoquer un petit peu les chrétiens de Corinthe qui ont un souci avec un personnage qui s'appelle Sophie. Vous vous souvenez de ce livre dans les années 90, je pense, qui s'intitulait « Le monde de Sophie », qui est un livre de philosophie. Sophie, Sophia en grec, la sagesse. Et les Corinthiens aiment, qui sont grecs, aiment la sagesse, la philosophie. Et Paul les provoque en jouant sur le paradoxe sagesse-folie. Dans ce passage, le mot « sagesse » revient 9 fois, et la plupart du temps dans un sens négatif, sagesse plutôt négative, et le mot « folie » revient 6 fois, et souvent dans un sens positif. Il serait bon d'être fou. Et on s'y perd un peu, et je sais pas si vous vous souvenez, moi j'aime toujours ce chanteur, Maxime Le Forestier, en 91, il a sorti ce disque qui s'appelait « Sagesse du fou ». Sagesse du fou, folie du sage, et puis la suite que je ne vous chanterai pas ce matin. Mais c'est un peu ça dans ce texte de Paul. Mais en fait, le thème principal, et vous l'avez compris, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas non plus la folie, mais le thème principal, c'est la croix, qui apparaît dès le premier verset, le verset 18, la proclamation de la folie de la croix. La proclamation de la croix, c'est une folie. Et puis, il va dire aussi plus tard, Paul, au chapitre 3, je pense, vous savez, mes amis de Corinthe, l'église qu'il a lui-même implantée 10 ans avant, il dit, parmi vous, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Recentrage sur la croix. Et Paul veut parler ni de la sagesse, ni de la folie, mais de la croix. Et il veut tout recentrer sur cet événement fondateur de la foi chrétienne, parce que en se disputant la première place au soleil de la Sophia, de la philosophia, les chrétiens de Corinthe avaient peut-être pas tout à fait intégré le message de la croix. Alors, on va reprendre le texte. Les Grecs cherchent ceci, les Grecs recherchent la sagesse, la philosophie, et quand Paul parle de la philosophie, il ne parle pas vraiment des cours de philo pour le baccalauréat, mais il parle de la philosophie ambiante à Corinthe et dans tout le monde grec, et le courant ambiant, c'est le sophisme. Et qui est un courant de philosophie qui allie en même temps la sagesse et l'éloquence, le verbe, comme Apollos, vous vous souvenez, la semaine dernière, qui parlait bien. Et j'ai une citation là qui... la sagesse du langage, il utilise la sophia logou, en grec, la sagesse du langage, l'éloquence, disait quelqu'un, donnait aux sages non seulement du prestige, mais aussi un pouvoir, un moyen d'action sur le monde et les hommes. L'éloquence pouvait même suffire à classer un homme parmi les sages, indépendamment des idées qu'il exprimait. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de l'éloquence. Qu'importe le contenu, pourvu qu'on soit un bon orateur à l'époque. le sophisme. Et ça vous dit quelque chose, hein, indépendamment des idées qu'il exprimait. On a ça aussi, hein, aujourd'hui. Peut-être, sans vouloir trop les taxer de sophisme, dans le monde politique, parfois, l'éloquence suffit à paraître sage. Et c'est les idées populistes aussi, hein, des semblants de sagesse. Mais on les fait passer. Et vous savez, on parle aujourd'hui de sophisme aussi. Et qu'est-ce que c'est un sophisme aujourd'hui ? C'est quelque chose qui a l'apparence de la sagesse, mais qui n'en a pas. Mais qui ne l'est pas, pardon. Et qui est illogique. Je vous laisse un sophisme que j'ai lu sur Internet. Un fainéant ne travaille pas. 2. Un chômeur ne travaille pas. 3. Donc, un chômeur est un fainéant. Ça, c'est un sophisme. L'apparence de la sagesse, mais qui ne l'est pas. Et on entend des discours comme ça, aujourd'hui. Et donc, on n'est pas d'accord avec un... C'est un sophisme. Apparence de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse. Et donc, les Grecs sont fans de sophisme, d'éloquence qui aurait l'apparence de la sagesse. On a retrouvé quelques slogans de l'époque, « Le sage est roi ». Autre slogan, « Tout appartient au sage ». Autre slogan, « La connaissance rend libre ». Enfin, tu connais, tu es au-dessus de tout. Et puis, y a Paul qui dit, de façon un peu ironique, « Où est le sage ? Où est le discoureur ?» Question rhétorique, nulle part. C'est un peu comme dans les matchs de foot, hein. Quand Marseille va jouer à Paris, tout le fan club de Paris écrit « Ils sont où les Marseillais ?» Et inversement, hein, quand Paris vient jouer à Marseille, « Ils sont où les Parisiens ? Il est où le discoureur ?» Toutes ces sagesses. Et pour Paul, il est important de recadrer ce texte dans le contexte de l'époque, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Ce contexte de l'époque où on magnifie, où on fait l'apologie de la sagesse ou du prétendument sagesse. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul rejette toute forme de sagesse, toute forme de philosophie ou toute forme de raison ou de réflexion ? Mais non, il est lui-même expert en rhétorique, il connaît la philosophie, il appelle Timothée à insister, à argumenter dans sa foi. Pierre, de son côté, demande aux chrétiens qu'ils soient toujours prêts à se défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est la base de l'apologétique, l'apologia dans le texte. Donc, la raison rentre dans le débat par rapport à la foi, dans la vie de foi même. Et puis, Jésus lui-même dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ou de ton intelligence. » La Bible n'est pas contre l'utilisation de l'intelligence ou de la sagesse ou de la raison. Et c'est utile de le rappeler contre un certain dualisme qui s'installe dans l'Église et qui opposerait le cœur et la raison. Moi, parfois, on entend cette expression pour la foi, il avait les choses dans la tête, mais maintenant, il faut que ça descende sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai du mal à me couper la tête. Il y a des liens entre les deux, et même, est-ce que ma tête n'est pas là et mon cœur ici ? Moi, je crois aussi avec toute ma raison et mon intelligence, et mon cœur est avec, je suis un homme intégré, et vous aussi, on croit avec tout, son intelligence, sa raison, ses émotions. Bon. Et d'ailleurs, Blaise Pascal, le philosophe, mathématicien, théologien, le disait au XVIIIe siècle, deux excès pour la foi chrétienne, exclure la raison et n'admettre que la raison. Alors, on est d'accord avec Blaise, à l'aise. Bon, et Pascal a bien donc lu Paul qui n'explique pas la sagesse comme un moyen de réflexion donné à l'homme. Ce qu'il rejette, c'est la prétention. La prétention que peut avoir la sagesse chez les Grecs ou la raison chez les cartésiens de Descartes, cette prétention à être la réponse à tous les problèmes de l'humanité et prétendre à avoir toutes les réponses et englober toutes les réponses aux problèmes de l'humanité, c'est la question de l'absolu. C'est une absolutisation de la raison ou de la sagesse. Et Paul va le dire en Romains 1, 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Dans le sens, avec cette prétendue sagesse ou cette vantardise à être sage, en prétendant s'en sortir par soi-même, on devient fou parce que cette prétention elle-même nous empêche de percevoir la réponse de Dieu. La folie de la croix. Et les Grecs sont comme empêchés de voir la croix comme une solution pour eux, et cela pour plusieurs raisons. La croix, folie pour les Grecs, et les raisons du blocage. Et donc, on le voit là, ils sont bloqués, les mains, les bras comme ça. Verset 23, c'est une folie pour les Grecs, ou une absurdité, ou une ineptie, ou un non-sens, la proclamation de la croix. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la proclamation de la croix vient buter contre leur conception philosophique de Dieu, dont le premier attribut était son incapacité à souffrir. L'apatheia, patheo, la souffrance, a le a privatif grec. La divinité chez les Grecs est ne doit pas souffrir. Alors que la croix est la manifestation de la faiblesse de Dieu, de la souffrance en Jésus-Christ, de la mort de Dieu. Et ça, c'est tout à fait inconcevable pour les Grecs. À la croix, Dieu pleure. Pour les Grecs, c'est pas possible. Deuxièmement, comment pour les Grecs admettre que Dieu se manifeste au moyen d'un homme qui subit la condamnation la plus déshonorante de l'époque, la croix réservée aux esclaves en fuite ou aux criminels non romains? Un romain, même criminel, ne vivait pas le supplice de la croix. La croix, c'est avant tout un moyen un outil de condamnation, un outil de mort, comme la chaise électrique. Et Jésus, Dieu lui-même, meurt sur une croix. Et pour les Grecs, ça signifie exactement le contraire de ce qui leur paraissait digne d'être recherché et qui pouvait les remplir de fierté. Le message de la croix est inepte pour eux, et ridicule même, un non-sens. Et puis, troisièmement, affirmer que le sang versé par un condamné juif il y a plusieurs décennies puisse leur apporter l'absolution de leur faute, le pardon de leur faute, c'était pour eux également tout à fait inconcevable, il n'y avait rien de rationnel là-dessus. Et puis, dernièrement, la croix, message de jugement sur les prétentions humaines, ben oui, la croix est un jugement sur leur prétention à vouloir s'en sortir eux-mêmes. La croix les met donc dans l'obligation de faire appel à un secours extérieur, ce qui est humiliant pour les Grecs. On veut pas de secours extérieur. On veut s'en sortir nous-mêmes. On a la prétention de s'en sortir par la sagesse, par la connaissance, par la culture. Moi, j'ai connu quelqu'un, c'était le salut par la culture. Plus elle connaissait de choses, mieux elle se sentait, enfin, en surface en tout cas. Et la croix, la proclamation de la croix, elle est encore une folie pour quelques personnes aujourd'hui et pour les mêmes raisons, enfin quelques personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous savez, on a fait plusieurs parcours alpha ici dans l'église et la troisième séance, c'est pourquoi Jésus-Christ est-il mort ? Et on sait, moi j'en ai fait depuis 15 ans des parcours alpha, on sait que c'est la séance la plus délicate, là où ça passe, où ça casse, parce qu'on parle de la croix, parce que Jésus est mort pour nos fautes, pour nos péchés, et c'est une séance super intense. très forte et qu'on aime faire parce que ça parle, on est au plein cœur de l'Évangile, en plein cœur de l'Évangile. Et il y a quelques années, c'était pour ne pas le dire à Orléans, dans l'église d'Orléans, on avait invité un vieux pasteur de l'ancienne génération, là. À l'époque j'étais plus jeune, lui il avait déjà les cheveux blancs, c'était un théologien, un érudit, un intello, avec des lunettes à monture métallique, avec une grosse culture, il était impressionnant et j'étais impressionné moi. Parce que la connaissance, la sagesse impressionne comme ça. Et puis, il a voulu parler, et le titre de la prédication, c'était « Le problème du mal ». Et il a parlé d'une personne, il a parlé de Jésus comme une personne qui participait aux souffrances de l'humanité, qui pouvait alors compatir avec nous, parce qu'il avait vécu la souffrance. Jusque-là, ça allait, mais il refusait toute notion d'expiation de la croix, c'est-à-dire le fait que Jésus soit mort sur la croix pour porter nos fautes et prendre sur lui le châtiment qui pesait sur nous, comme le dit le prophète Ésaïe dans ce chapitre extraordinaire du 53. Et c'était troublant de l'écouter parce que ce vieux pasteur, mais son discours, d'ailleurs, perdait de sa force au fur et à mesure. Et à la fin, le problème du mal, c'était le thème, n'était pas résolu. Et il manquait la puissance, tout simplement, de l'Évangile, de la proclamation de la croix. La croix est encore, aujourd'hui, une folie aux yeux de certains. Et les Juifs, que demandent-ils ? Je parle de l'époque, hein, et je reviens au texte. Il demande un signe miraculeux, un prodige, un signe, un truc étonnant, un truc sensationnel, exceptionnel, un truc puissant, un super power, Jesus, superstar, Superman. Et donc, pas des signes extérieurs de richesse, mais des signes extérieurs de puissance que l'on peut traduire par miracle, prodige, acte exceptionnel, des signes irréfutables, que Dieu intervient bien pour eux dans leur histoire, des preuves sensationnelles pour les conforter et leur dire qu'ils sont dans le vrai. Les Juifs ne sont pas comme les Grecs, ils sont croyants, ils ne recherchent pas, ils demandent. Ils exigent presque Yahvé, que Yahvé Tsebaot, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, puisse signer son action dans le monde par des signes. On veut ta signature, on veut des signes, des actes puissants, exceptionnels. Comment pourrait-on faire confiance en Dieu s'il ne donne pas des preuves irréfutables de sa présence et de sa puissance ? Et là aussi, la prédication de la croix vient complètement à l'encontre de cette demande de signes, de cette recherche de sensationnalisme. La croix n'est pas une démonstration de puissance, mais une démonstration de faiblesse et d'humilité. Et pour les Juifs, c'est un problème énorme. Ce n'est pas du tout ce qu'ils demandaient, cela ne rentre pas dans leur procédure, comme on dit aujourd'hui. C'est pas la procédure habituelle. Et la croix devient pour eux un scandale. C'est dit dans le texte, scandalon, en grec, c'est-à-dire une pierre d'achoppement. Un truc qui vient les faire glisser comme une peau de banane, comme un poteau au milieu du trottoir que l'on ne voit pas. On est bloqué, on le prend en pleine figure. Pour les Juifs qui demandent des signes de puissance, la croix est trop difficile à avaler, inconcevable aussi. Et il y a d'ailleurs un précédent dans les évangiles, en Matthieu 12, Jésus est encore en Galilée et des scribes et des pharisiens, donc des religieux juifs de l'époque, viennent le voir en délégation et lui demandent « Maître, fais-nous un signe !» Un petit tour de magie, un petit truc comme ça. histoire de nous convaincre. Et Jésus, qui a déjà guéri le paralytique, qui a été amené par les quatre amis qui ont fait un trou dans le toit, hein, une magnifique histoire, qui a guéri aussi la fille de Jaïrus et qui a déjà fait des miracles, eh bien, à ses scribes et ses pharisiens qui lui demandent un miracle, un signe, fais-nous un signe, il va dire non. Non. Pas de signe, pas d'acte de puissance. Parce que je veux vous donner le signe que je veux vous donner, c'est celui de Jonas qui est resté 3 jours dans la mort, comme le Fils de l'homme restera 3 jours dans le tombeau après avoir été crucifié sur cette croix. Seul signe que je vous donne, c'est ma mort sur la croix. Un recentrage sur la croix. Allez à la croix. Voilà le signe qu'il vous faut, voilà le seul signe qui peut vous faire changer, voilà le seul signe convaincant de la présence de Dieu sur la terre et de son intervention en faveur de l'humanité, la croix, Jésus mort sur la croix pour nous. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour nos fautes qu'il a été percé, Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'on veut de plus? « Que vous faut-il de plus, Jean, de peu de foi ?» dirait Jésus. Et parce que, malgré la faiblesse de la situation de Christ en croix, qui n'est pas enviable, malgré le fait qu'elle vient heurter notre inclination naturelle à la puissance visible et immédiatement consommable, la croix est le signe pour ceux qui croient. Pour les autres, elle est scandale, elle est faiblesse, elle est ineptie, elle est absurdité. Moi, j'ai parlé un jour, c'était aussi à Orléans, avec un jeune. Donc l'église d'Orléans, elle est dans la cité d'Orléans, une des cités d'Orléans. Et je parlais avec un jeune homme de famille chrétienne, sa grand-mère était dans l'église, et lui était attiré, il était... plus ou moins, enfin pas plus ou moins, martiniquais, mais métis, et il était attiré par l'islam. Et ce qu'il attirait dans l'islam, c'était la force. C'était presque la force brute de l'islam, le côté conquérant, le côté victorieux. Il en avait un petit peu marre d'être... de sa grand-mère qui était la gentille chrétienne et qui était toujours prête à tendre la joue gauche quand on l'avait frappée sur la joue droite. L'islam l'intéressait parce que c'était vigoureux. Et beaucoup sont attirés par cela aujourd'hui, des jeunes. La croix semblait pour lui être une défaite, une faiblesse qui disqualifiait irrémédiablement Jésus. D'ailleurs, et c'est pas pour faire une guerre de religion ou quoi, mais de quand même préciser les choses, vous savez que l'islam ne reconnaît pas la croix. Elle parle de Jésus, Issa, mais à la croix, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas Issa qui était. Et la Bible a été falsifiée. On sait pas par qui ou quand. Mais, parce que la mort sur une croix, même pour un prophète, c'est comme ça qu'il considère Jésus, c'est trop dégradant. La croix est un scandale pour le musulman, comme pour le juif. La pierre, la croix, pierre d'achoppement, mais passage obligé pour un changement radical de la personne et surtout pour le salut. Pourquoi ? Parce que la croix est le choix de Dieu. Et au verset 21, il y a une expression extraordinaire, c'est « il a choisi, Dieu a choisi, il a plu à Dieu ». On pourrait traduire « Dieu a choisi la folie de la croix pour sauver les hommes ». Dieu a jugé bon, il a jugé que c'était une bonne idée, la croix. Il a plu à Dieu, il a choisi, il a jugé bon, il a choisi, et ce choix de la croix relève de la grande liberté de Dieu à faire des choix libres. Mais il s'agit pas non plus d'un caprice de Dieu ou quelque chose qu'il aurait pris au dépourvu parce que les autres plans n'auraient pas marché, parce que la sagesse n'a rien donné, par exemple. Non, c'est un choix fait, la croix, depuis la fondation du monde. Alors là, ça nous dépasse. Mais c'est le choix de Dieu. Un choix souverain, un choix qui prend en compte toutes les données de l'homme, du mal, du péché, de la justice, de l'amour aussi. Le choix de Dieu, la croix, que cela corresponde à notre procédure habituelle, que cela corresponde à notre attente, que cela corresponde à notre demande ou non, le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu, le choix libre de Dieu, c'est la croix. C'est l'humilité, c'est l'incarnation, c'est l'obéissance jusqu'au bout en Jésus-Christ. Le choix de Dieu, c'est la croix, et on pourrait presque dire, le choix de Dieu, ça se discute pas. Et c'est l'idée derrière la folie de la proclamation de la choix, de la croix, la proclamation. On ne discute pas une proclamation. La proclamation, dit à un auteur que j'aimais beaucoup, que j'ai eu comme professeur d'éthique, Robert Somerville, un pasteur baptiste, et qui était vraiment un prédicateur de la grâce. Mais voilà ce qu'il dit au sujet de 1 Corinthiens 1, 20, 18. La proclamation n'est pas une parole qu'un homme peut se dire à lui-même. Ce n'est pas un discours persuasif, un raisonnement ou un recueil de bons conseils, mais une nouvelle, l'annonce d'un événement historique, la croix. Elle vient d'ailleurs. Elle vient de Dieu. À la croix, et on continue le texte et on termine, donc cette proclamation, c'est pour le salut des hommes et la gloire de Dieu. Et on parle à la fin, lui, Jésus, qui est devenu, par la volonté de Dieu, il est devenu quoi ? Il est devenu sagesse, notre sagesse, notre justice, notre purification, comme Daddy en a parlé là tout à l'heure avec la femme de mauvaise vie, et notre libération, afin, et je laisse la suite pour plus tard, en venant sur cette terre partager notre condition et la condition de serviteur, en poussant son amour jusqu'à la mort sur une croix, il est devenu tout cela pour nous. Il n'est pas seulement permis notre libération, il est devenu libération. Il n'a pas fait en sorte que nous soyons purs, que nous devenions purs, il est notre purification. Il est notre sagesse. Il incarne toutes ces choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des substantifs pour devenir libération, sagesse, purification, libération, je l'ai déjà dit. Mais il devient tout cela dans son être. Il est pour nous justice de Dieu. Et Paul reprendra cet argument. Il est devenu justice de Dieu. Et moi, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut pas faire mieux. Ce genre de choses, ça ne s'invente pas. Et on ne peut faire qu'une seule chose après cela, c'est la recevoir, cette proclamation de la croix. Et de la recevoir peut-être même à genoux. Seigneur, tu es devenu ma justice, ma sagesse, ma libération, ma purification. Et le verset 31 ajoute, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Et je cherchais une application, moi, pour tout ce speech sur la croix, la sagesse, folie et le thème de la croix centrale. Et mais c'est simplement ça, la louange. Et vous vous souvenez du titre incomplet, Dieu est-il fou à... Et vous connaissez l'expression, il est fou à lier. Mais non, Dieu est fou à louer. La seule réponse à la folie de la proclamation de la croix, à la folie de Dieu telle qu'il est écrit, c'est la louange. Seigneur, merci pour toi. Merci pour ta grâce, parce que à la croix, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, de ce couple, et c'est comme ça que je définis la grâce, de ce couple amour-pardon. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Merci pour ta grâce. Et comme exercice spirituel instantané, je vous invite à chanter ensemble un chant de louange pour la grâce, pour la sola gratia, La sola gratia, c'est une des maximes de la réforme du XVIe siècle. Elle vient en deuxième, la sola scriptura, l'écriture seule. La sola gratia, la grâce seule. La sola fide, la foi seule. Solus Christus, Jésus-Christ seul. Et pour finir, dernière maxime, soli Deo gloria. À Dieu seul la gloire. Non pas à moi, mais à toi, Seigneur, dit le vieux cantique, à toi seul on veut rendre gloire. Soli Deo gloria. Afin que ma fierté ne soit pas dans mes capacités, dans mes prétentions, mais que ma fierté se trouve dans le Seigneur. Levons-nous pour chanter ensemble « Sola Gratia ».